Alors, ce matin, je voulais qu'on puisse faire un petit voyage, une petite aventure. Je suppose que tout le monde ici connaît l'histoire de Paul dans la Bible. Qui ne connaît pas l'histoire de Paul dans la Bible? Vous connaissez tous? Vous connaissez tous? Oui? J'entends rien. J'ai eu peur. J'ai eu peur de faire un monologue. Cool. Donc on va faire un petit voyage et j'avais vraiment sur mon cœur de qu'on puisse voir un petit peu l'histoire de Paul, mais vraiment sous un angle de l'ombre à la lumière. Et il y a un point qui m'a vraiment touché vendredi qu'on a vu. C'est Joël Thibault, c'est ça, il s'appelle comme ça. Il est venu. Et à un moment, je lui ai posé un petit peu une question qui allait un peu dans le sens par rapport à notre société aujourd'hui, au niveau du sport. Nous, en tant que chrétiens, comment les gens vivent un petit peu, enfin les joueurs chrétiens, comment vivent peut-être parfois ce moment où ils ont peut-être des moments de défaite, des moments de difficulté, parce que souvent, on peut prendre la parole des fois aussi un peu au premier degré ou autre, et on se dit, je suis chrétien, je dois être fort, la faiblesse, non, pas possible, toutes ces choses-là. C'était un petit peu ça l'idée de ma question, et de voir comment les gens perçoivent ça, parce que des fois, on est un petit peu trop radical. Et en fait, il a donné, alors je ne vais pas vous dire tout ce qu'il m'a dit, enfin tout ce qu'il a dit dans sa réponse, mais il a relevé quelque chose qui était important et je me suis dit, ouais, ça c'est quelque chose qui peut vraiment être bon pour introduire un petit peu l'histoire de Saul, Paul, parce que vraiment, dans notre société, à nous aujourd'hui, on pourrait voir Paul vraiment d'un regard très particulier, également à l'époque, mais je pense qu'aujourd'hui, ça sera encore plus dur. Voici. Ce qu'il a dit à cette question-là. Notre société nous évalue sur nos performances alors que Dieu nous offre sa grâce. L'évangile, ce n'est pas que ce que l'on peut faire pour Dieu, mais c'est ce que Dieu a déjà pour nous en offrant son Fils comme sacrifice. Nous n'avons plus à performer pour être aimés des autres, mais à nous laisser aimer par Dieu pour apprendre à aimer les autres. J'ai trouvé ça vraiment quelque chose qui peut être libérateur pour nous en tant qu'enfants de Dieu par rapport à cela, parce qu'on est vraiment dans une société où il y a cette performance. Et Paul, vous allez voir qu'il était dans cette performance également. Donc, on va faire un résumé de sa vie, mais également on va voir un petit peu le contexte, quelle était la situation de Paul. Donc le thème, c'est de l'ombre à la lumière. Et je souhaite vraiment que ce matin, on puisse également voir dans nos vies qu'est-ce qui est chez nous l'ombre et qu'est-ce qui est chez nous la lumière. Et au travers de cette ombre, c'est Jésus-Christ qui peut vraiment nous apporter cette lumière. Donc ici, Paul, on voit qu'il est né à Tarse, une ville de province romaine de Cilicie. Et vers l'an 5, c'est des dates incertaines, mais plus ou moins. Il était et on voit qu'il était de descendance juive. Et son appartenance à la tribu des Benjamins n'est pas confirmée à 100%, mais c'est fort probable que c'est cela. Et son père était un citoyen romain, et c'est ce qui lui a donné la citoyenneté romaine. Ça, c'est important de le savoir, parce que après vous le savez, mais à un moment donné, le fait que son père était citoyen romain, ça l'a sauvé d'une belle galère. Paul a reçu une éducation juive traditionnelle, y compris une formation rabbinique possible. Il a étudié auprès du rabbin Gamaliel, l'un des plus grands rabbins de son temps. Donc je pense que c'est important de voir un petit peu le contexte. Alors quand je dis Paul, quand il a vécu tout ça, il était encore en tant que Saul. Et là maintenant, on va se mettre en tant que Saul. Saul, il est né dans ces circonstances-là, il est né dans cette société-là, et Saul, il est né d'un point de vue sociétal, il est né vraiment avec un avantage que d'autres n'avaient pas. Et dans ce milieu-là, à ce moment-là, il vivait vraiment dans la lumière, c'est-à-dire qu'il était dans le feu des projecteurs, c'est-à-dire que Saul n'avait pas besoin de se cacher, il était dans la lumière, il pouvait vivre sa vie, se déplacer comme il voulait. Il avait tous les avantages avec lui. Il avait le pouvoir. Il avait l'autorité. Je pense que financièrement, ça ne devait pas être trop galère pour lui. Et il avait vraiment toute la mentalité de la société qui était autour de lui. Et il vivait vraiment dans ce domaine, dans ce milieu de performance. Et tout ça, c'était quelque chose qui pouvait le mener vraiment à des objectifs de vie qui pouvaient vraiment être satisfaisants pour lui. Mais au-delà de ça, on sait que Paul, il aimait vraiment ce qu'il faisait. Et en fait, il était sincère, mais sincèrement dans l'erreur. On va le découvrir plus tard. Donc ça veut dire que tout ce qu'il faisait, on pouvait même dire qu'au fond de lui, il le faisait d'un bon cœur. Parce qu'en fait, il se disait, je sers la cause de Dieu. Mais il était sincèrement dans l'erreur. C'est ce qui peut parfois nous arriver. On peut se croire dans la lumière, mais au final, au fond de nous, on est sincèrement dans l'erreur. Et à un moment donné, on voit dans la Bible la première apparition de Paul. L'une des premières apparitions de Paul, c'est même la première, elle est assez particulière. Donc, la première apparition de Paul, c'est déjà, on peut déjà l'identifier à, moi j'ai mis en titre, le persécuteur. C'est vraiment le persécuteur. Voyez ce qui est dit dans Actes 7, verset 58. On voit la lapidation d'Étienne et il est dit, il parle d'Étienne, ils le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Ici, le fait que les vêtements soient posés devant Paul, c'est également une manière de dire à cette époque, voilà, on a fait ce qui nous est demandé, tu as la preuve, Étienne, il est mort. Et c'est une manière également pour Paul d'approuver ce qui s'est passé. Et si on lit Actes 8, versets 1 à 3, il est dit, donc là on voit de nouveau l'apparition de Paul, mais vraiment d'une manière plus confirmée, il est dit que Saul approuvait l'exécution d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'église de Jérusalem et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de la Samarie. Des hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'église. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Donc on voyait qu'il était sans limite et il était vraiment là dans une notion de performance. Moi, ma mission qui m'est donnée, c'est de détruire tout ce groupe-là avec Jésus et qu'il n'y ait plus rien qui se passe. Et il avait cette liberté. Il était vraiment visible et il n'y avait rien qui pouvait l'empêcher. Bien au contraire, je dirais même que le diable lui ouvrait grand les portes en disant « Vas-y, c'est très bien ce que tu fais. » Et au final, on va voir que de fil en aiguille, il y a quelque chose qui va se passer. Donc vous connaissez l'histoire, mais mon but c'est qu'on soit ensemble dans ce voyage de Saul et de Paul. C'est la même personne, mais je pense qu'il a bien fait de changer de prénom. Des fois on fait... Hein, la réputation du prénom des fois n'est pas glorieuse, comme on dit. Et on voit quelque chose qui va se passer et quelque chose qui va amener au changement. Et c'est là un petit peu où on peut rejoindre un petit peu l'introduction que je disais, que au niveau des performances et au niveau de cette grâce que Dieu nous fait, ça dépasse toute chose. Alors, veuillez m'excuser. Là, on va parler de la route vers Damas. Regardez tout ce qui se passe à ce moment-là. Comme il était en chemin et qu'il approcha de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent muets de stupeur et ils entendaient bien la voix. Mais il ne voyait personne. Saul se releva de terre, malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir et ne mangea ni ne but. Ensuite, un petit peu plus loin, on va revenir après sur ce qui s'est passé, mais un petit peu plus loin, au verset 10, il est dit « Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision « Ananias ». Il répondit « Me voici, Seigneur ». Le Seigneur lui dit alors « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et dans la maison de Judas, demande un dénommé Saul de Tarse. En effet, il prie et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. » Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem, et ici, il a plein pouvoir. » Il est dans la lumière, il a plein pouvoir, rien ne peut l'arrêter. « De la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. » Mais le Seigneur lui dit, « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Waouh ! Là, c'est vraiment une grâce totale. Est-ce que Saul méritait une grâce comme ça, à nous, aux yeux humains, et par rapport à la société ? Clairement, on dirait non, c'est pas possible. Toi, c'est la prison, c'est fini, toutes ces choses-là. Et on voit quelque chose qui est fort, c'est que pendant que Saul est sur ce chemin de Damas, lui, il est dans cette vie pleine, il est dans cette lumière. Il se dit, waouh, il n'y a personne qui peut m'arrêter. Et tout d'un coup, une lumière vient dans sa vie. Et tout d'un coup, Jésus se révèle à lui. Et la chose qui est frappante, c'est que Jésus vient parfois dans nos vies sans qu'on s'y attende. Il est à cheval et il ne s'attendait pas parce que lui, il était convaincu de servir déjà son Seigneur. Et moi, ce qui me frappe, c'est la grâce de Dieu. Parce qu'on peut se dire parfois, ouais, lui, il a besoin d'être brisé, il a besoin d'entendre ce qu'il faut qu'on lui dise. Et au final, on voit un Jésus qui vient et qui dit, « Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et c'est là où on voit la puissance de l'amour, la puissance de la grâce. Il aurait pu venir avec une épée, il aurait pu venir pour le transcender. Mais là, non. En fait, je pense que Jésus voyait qu'au final, Saul était en manque d'amour. Parce qu'au final, tout ce qu'il faisait pouvait l'amener toujours à la solitude. Parce que quand on fait des choses mauvaises, ça nous amène toujours à la solitude. Et là, on voit Jésus qui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est quand Saul dit « Qui es-tu, Seigneur ?»« Qui es-tu, Seigneur ?» Ça veut dire qu'il reconnaissait quelque chose comme Seigneur qui venait à lui, mais il ne savait pas encore bien. Et c'est là où on voit qu'au final, Saul, malgré les feux des projecteurs, au fond de son cœur, il était dans l'ombre. Il a eu besoin de la lumière pour sortir de cette ombre. Et Jésus a été encore plus loin là-dessus, parce que la lumière était tellement forte que ça l'a rendu aveugle. Du coup, en plus d'être dans l'ombre dans son cœur, il s'est retrouvé également dans l'ombre par rapport à ses yeux, s'est retrouvé aveuglé. Prenons conscience de cette histoire d'ombre. Ce n'est pas juste l'ombre pour ne pas avoir trop chaud ou autre. Non, là, on parle vraiment d'un chemin un peu désertique, mais d'un chemin qui va nous mener à une remise en question sur soi-même. Et là, tout d'un coup, Saul reçoit une révélation. Le Seigneur ne lui a pas dit « Donne-moi ta vie ». Il lui a dit « Pourquoi tu me persécutes ?» Pourquoi tu me persécutes ? Et tout a chamboulé. Sa vie a changé. Et on voit quelque chose qui est fort, c'est que tout d'un coup, quand le Seigneur se révèle, il lui donne déjà des paroles. Et il y a eu quelque chose, c'est que Paul, autant il était convaincu de tout ce qu'il faisait était bon, autant tout d'un coup sa conviction a commencé à changer. Parce que sa conviction était une conviction obscure, était une conviction qui était dans les ténèbres, était une conviction qui n'était pas à la gloire de Dieu. Et je pense que parfois, nous-mêmes, on peut avoir des convictions en se disant c'est bon, toutes ces choses-là, mais ce qu'il y a vraiment au fond de mon cœur, parfois, on est rentré dans des zones d'ombre. Et le Seigneur, ce matin, veut vraiment donner la lumière sur nos vies, la lumière sur nos décisions, la lumière sur nos couples, la lumière sur nos vies, la lumière sur nos péchés. Mais au travers de sa grâce et d'une prise de conscience personnelle dans nos cœurs. Et je pense que ça, c'est le plus important. Il n'y a pas dit à Paul, va te faire mal, va te fouetter. De toute façon, Jésus savait qu'il allait en souffrir. Mais il lui a fait comprendre que dans son cœur, il y avait des zones tortueuses. La lumière physique l'a aveuglé. Et pourquoi il ne voyait pas tout ça? C'était à cause de son éducation. C'était à cause également de ses convictions. C'était à cause également de la situation cosmopolitique. Et c'était aussi l'effet de foule. Parce qu'il disait, c'est bon, j'ai une armée avec moi. Mais il en a perdu jusque la vue. Et là, on voit que Paul, dans son cœur, après, il est passé de l'ombre à la lumière parce qu'il a reçu une révélation. Paul est passé de l'ombre à la lumière. Tout comme nous, quand on a rencontré Dieu, nous sommes passés de l'ombre à la lumière. Et pour ceux qui doivent recevoir encore Jésus dans leur cœur, vous pouvez passer de l'ombre à la lumière. Et ça, c'est le plus important. Il y a un autre point, c'est qu'à un moment donné, on voit que Paul est resté 3 jours seul et isolé. 3 jours seul et isolé. Et il parle également que Paul, à un moment donné, il n'a plus mangé, il n'a plus bu. Alors on peut avoir des interprétations différentes. Est-ce que je peux donner mon avis sans dire que c'est biblique? Moi, mon avis, c'est que je pense qu'il devait être déprimé et qu'il ne devait pas jeûner. C'est mon avis personnel, je ne dis pas que c'est biblique, je ne dis pas que c'est ça, mais en tout cas, c'est mon ressenti. J'essaye de me mettre un petit peu à la place de Paul, de Saul, pardon. Voilà, maintenant, c'était devenu Paul, hein, déjà. Mais maintenant, on va parler Paul. Et en fait, j'essaie de me dire, voilà, moi, si demain je vis ça, je pense que j'aurais vraiment honte d'avoir été convaincu de faire le bien, et au final, c'est pas ça. Et ça m'est déjà arrivé, mais là, c'était vraiment un degré plus élevé, bien sûr. Et je pense que pour lui, ça devait être terrible parce que c'était toute son identité qui était remise en question. Je pense que Paul devait avoir plus ou moins la trentaine à ce moment-là. Et là, c'est, vous imaginez, une trentaine d'années où on est convaincu. Et là, tout est changé. Et là, il devait avoir terriblement honte. C'est-à-dire, j'étais persuadé de servir le bon Seigneur et j'ai tué des gens. J'ai tué des gens. Et au final, au travers de ce que j'ai fait, je viens de ressentir un amour que je n'ai jamais reçu. Et au final, je me rends compte que ce n'était pas ça que je devais faire. Donc il est resté pendant 3 jours comme ça. Et à un moment donné, c'est là où on voit quelque chose de fort, parce que durant ces 3 jours, de manière maintenant physique, de manière société, il était maintenant dans l'ombre. Il est resté 3 jours dans l'ombre, sans se montrer à personne. Et il y a quelque chose qui est fort, c'est que quand on vit des temps comme ça, c'est là où le Seigneur va profiter pour venir se révéler. Et on voit que Jésus dit à Paul... Il lui montre qu'un homme va venir prier pour lui. Et pendant que Paul est dans cette situation-là, on voit une autre personne. On voit Ananias. Je ne pense pas qu'on avait entendu parler d'Ananias avant. Mais Ananias, c'est un gars qui est dans l'ombre. Quand on lit les textes, c'est un gars qui est dans l'ombre, mais qui sert la lumière. Et on voit Ananias qui écoute Dieu et que tout d'un coup, le Seigneur lui dit, voilà, il y a un homme qui est dans telle maison, qui est dans telle ville, qui est en train de prier. Et durant son temps de prière, il a reçu une vision qu'un homme qui s'appelle Ananias va venir prier pour le guérir. Quelle précision! Et ça, ce passage-là, je pense qu'il doit nous encourager. Dans nos moments d'ombre, dans nos moments de défi, dans nos moments de combat. C'est-à-dire que Dieu est tellement précis qu'il connaît toutes choses. Et c'est vrai que parfois on est vite pris dans nos émotions et on se plante carrément et on se tape la honte, hein, ça arrive. Mais On voit que Dieu est précis. Et on voit la réaction d'Ananias, je pense qu'on aurait tous fait, voire même pire, qui dit « Non, mais Seigneur, tu vois sa réputation. » Tellement qu'il était dans la lumière avant Saul, il avait la réputation, on le connaissait. Il lui dit « Moi, non, et il risque même de me tuer presque. » C'est un petit peu ce qu'il veut dire. Et là aussi, c'est là où on voit la puissance de Jésus. Des fois, pour avancer, on dit « Ouais, faut qu'il me terrasse. » Mais au final, il dit « Va. » C'est tout. « Va. » Et au travers de ces moments d'ombre, le Seigneur agit. Et on voit qu'Ananias, homme qui travaille dans l'ombre, comme je l'ai dit, commence à arriver un petit peu dans la lumière, dans les feux des projecteurs, on va dire. Et on entend parler d'un gars qui va prier pour quelqu'un. Cette personne est guérie et la vie change complètement. Nous devons vraiment croire que dans notre période d'ombre, de solitude, Dieu va parler à un Ananias. Nous devons le croire. Mais nous devons croire également que nous pouvons peut-être être un Ananias. D'où l'importance d'être à l'écoute. Dans nos moments où peut-être on va très bien, mais que peut-être par rapport au Seigneur, comment on le sert, comment on aimerait les choses, ça ne se passe pas comme on aimerait, hein, ça arrive. Hein. On se sent peut-être un peu dans l'ombre, mais il faut croire que dans ces moments-là, tu peux agir d'une manière différente. Moi, je prie pour que des Ananias se lèvent. Je prie pour que des Ananias viennent me voir quand ça ne va pas. Je prie pour que je sois un Ananias pour aller voir quelqu'un quand il n'y va pas. Tout ça pour la gloire de Dieu. Et quand on passe comme ça de l'ombre à la lumière, peu importe que ce soit d'une manière de réputation, d'une manière de cœur, d'une manière de foi ou autre, l'important c'est d'être là où Dieu veut que nous soyons. Et ça c'est important. Et on voit un petit peu après la situation de Paul, donc Saul devient Paul, et à un moment donné on voit un peu plus loin que Paul commence à prêcher dans la synagogue à Damas. Et à un moment donné on voit que les Juifs cherchent à le tuer. Et ça, je pense que ça a dû être difficile. Parce qu'avec eux, il était pleinement dans la lumière. Et tout d'un coup, les Juifs commencent à vouloir le tuer. Et on voit dans certains passages, hein, je n'ai pas pris tous les passages forcément, mais à un moment donné, on voit ici, les Juifs cherchent à le tuer. Alors une nuit, les disciples le prirent et le descendirent le long de la muraille dans une corbeille. Ils rencontrent les disciples, puis par un bon moment à Tarse. En fait, ce qui est fort, c'est qu'à un moment donné, vous savez, l'histoire de Paul, il se retrouve un petit peu avec les disciples. Forcément, ça chauffe un petit peu. Mais ce qui est fort, c'est qu'il doit se dévoiler devant eux, mais il n'a plus cette même aura, il n'a plus cette même autorité. Et en plus, il est tout seul. Et ce qui est interpellant, c'est que c'est les disciples qui vont l'aider à s'enfuir pour ne pas être tué. Alors, Paul a connu des persécutions. Il a été persécuté par l'amour de Jésus, mais après, il a été persécuté par les Juifs. Et il a été persécuté, en gros, par ses anciens potes, comme on dit. Et ce qui est fort, c'est que peut-être dans ses disciples, il y avait peut-être un frère que peut-être Saul avait approuvé de tuer. Il y avait peut-être un cousin. Il y avait peut-être un ami. Il y avait peut-être une connaissance. Et là, on voit quelque chose. Et là, Paul commence à vivre dans la grâce. Mais moi, je me mets encore à la place de Paul. Je m'imagine déjà dans la corbeille. Bon, moi, je ne suis pas sûr que je serais bien rentré dans la corbeille. Hein ? Mais imaginons ça. Des gars avec qui tu étais en train de clasher, tout d'un coup, ils viennent t'aider, ils te sauvent la vie. Et là, pareil, ton orgueil doit en prendre un coup. Qu'est-ce qu'il a dû se dire dans la corbeille ? Même dans la corbeille, il était dans l'ombre. Il devait se cacher. Et c'est là où on voit encore la grâce de Dieu. Cache-toi pour l'instant, je vais m'occuper de toi. Et on voit un petit peu après, c'est que quand Paul se cache, à un moment donné, il se retrouve dans un temps d'isolement. Dans Galates chapitre 1, verset 17, il est dit « Et aussitôt après ma conversion, je partis pour l'Arabie, où je passais 3 ans sans paraître à personne, et où je m'appliquais qu'à prier Dieu et à méditer sur sa parole. » Là, on voit que Paul a eu un temps de remise en question. Alors, il a eu plusieurs périodes, ça serait compliqué à rentrer dans les détails, mais en gros, il a eu 3 ans à Tarse et 3 ans en Arabie. Mais durant ces temps, justement, où il s'est, entre guillemets, isolé, où il est resté justement dans l'ombre, qu'il n'était plus dans les feux de projecteurs, il a eu un temps où, justement, c'était son temps de remise en question. Il faut bien se mettre en... Il faut bien prendre en compte le contexte de l'époque, c'est-à-dire qu'à l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, en France, si on dit bah, « je suis chrétien », tu vas avoir des critiques, mais tu ne vas peut-être pas te faire lapider. Mais là, à l'époque, c'était vraiment sa vie, elle était en jeu. Et ce qui se passait également, c'est que Paul, comme il était sincèrement dans l'erreur, tout a été chamboulé pour lui, et du coup, durant ces temps, justement, où il s'est mis à part, il avait vraiment, 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 vraiment besoin d'enseigner, de réétudier d'une manière différente de ce qu'il avait reçu et également d'être convaincu. Et parfois, on peut être convaincu que Dieu existe, mais on n'est peut-être pas convaincu de tout ce qu'il veut faire pour nos vies. Et ça, ça prend du temps. Et c'est pour ça que Paul est resté pendant autant de temps. Donc, il a réappris l'humilité, il a réappris à se faire discret et il a appris à connaître le Dieu qu'il ne connaissait pas. Ou du moins qu'il pensait connaître. Et à travers cette conviction, on voit que Dieu ne le laissait pas. On voit qu'à un moment donné, la vie de Paul a pris un nouveau tournant. Et c'est là, de nouveau, où on voit la précision de Dieu, parce qu'à un moment donné, il y a un homme qui s'appelle Barnabas, qui va aller le voir, et qui va lui dire, écoute, Paul, alors, je ne sais pas s'ils ont été au fast-food ou dans un bar, mais ils ont discuté. Et écoute, Paul, est-ce que ça te dirait de venir avec moi à Antioche? Encore quelque chose de magnifique. C'est Dieu qui envoie. Et des fois, on a également besoin d'être des Barnabas pour certaines personnes. Et des fois, on a besoin qu'un Barnabas vienne vers nous en disant, bah, écoute, viens avec moi. Viens travailler avec moi, viens œuvrer avec moi pour le Seigneur. Ce n'est pas Paul qui décide, mais c'est Barnabas qui vient le voir. Veux-tu venir avec moi à Antioche? Alors que Paul était toujours dans l'ombre, le Seigneur est venu et a commencé à parler à Barnabas pour que Paul puisse sortir de cette ombre. Et au bout d'un moment, il devait peut-être être aussi dans le confort. Mais on voit quelle précision Dieu a. Et ensuite, il y a eu les voyages missionnaires qui se sont faits. Il a fait des voyages missionnaires ensuite en Asie mineure, en Grèce et en Europe. Au cours de ces voyages, il a fondé de nombreuses églises et a écrit des lettres aux églises qu'il avait fondées. Mais il a dû passer par des moments isolés, des moments dans l'ombre et dans la lumière, quand il était de nouveau sur le feu des projecteurs. Là, c'est quand il était de nouveau dans son plein ministère, où là il était un peu plus visible, je ne parle pas du tout de gloire, attention, hein, mais où il était un peu plus visible pour servir le Seigneur, ben même dans ces moments-là, là c'était plus le Seigneur qui l'a mené dans l'ombre, mais c'est le diable qui faisait tout pour qu'il soit dans l'ombre. Autant le diable lui avait ouvert tellement de portes pour qu'il soit dans la lumière quand il servait la mauvaise cause, qu'une fois que Paul servait la bonne cause, là, c'était le diable qui voulait lui dire « Non, reste dans l'ombre. » Et combien de fois le diable veut nous laisser un petit peu hein, dans l'ombre. Et on voit la précision de Dieu. Et pour parler de précision, j'aimerais vous donner un petit témoignage avant d'aller plus loin. Il y a de ça quelques années, je ne sais plus si j'étais déjà chrétien, je ne me rappelle plus. Mais en gros, on partait en Sicile avec mes parents. J'étais avec eux et j'étais le seul enfant qui partait. Et je me suis posé la question, comme tout homme, Seigneur, est-ce qu'un jour je vais rencontrer la femme de ma vie? Est-ce que je vais avoir une femme qui va m'aimer? Est-ce que j'aurai des enfants? Est-ce que voilà, moi j'ai jamais attiré les filles, j'ai jamais eu cette tchatche, comme on dit, et j'en souffrais énormément. Et je disais, Seigneur, franchement, Et je disais, Seigneur, je sais que tes promesses sont véritables, mais franchement, j'ai du mal à y croire. Je disais comme ça, quand je vois ma tête, j'ai du mal à y croire. Ah, si vous rigolez, c'est que vous pensez ça, c'est vrai. Et voilà, je disais, Seigneur, donne-moi un signe. Vraiment, donne-moi un signe. Et je ne sais plus dans quel arrêt on était, mais c'est sûr qu'on n'était plus en France. On était soit en Allemagne, soit en Suisse, soit en Italie. Mais on avait fait presque 1000 km. Et vous savez, quand c'est les vacances, hein, dans la voiture, tu enlèves tes chaussures. Voilà. Et j'ouvre la portière et je ne sais plus si je devais remettre mes chaussures ou autre, mais en gros, quand tu as roulé longtemps, tu mets un petit peu de temps avant de te relever parce que sinon, les crampes, elles arrivent direct. J'arrive, j'ouvre la portière, donc on s'arrête pour une pause pipi. Hein. Mon père, il fait « On va aller faire pipi !» Et ben, vas-y, papa, moi aussi, je dois faire pipi. » Et au moment où j'ouvre la porte, je vois quelque chose qui brille dans le sol. Pas sol de tarse, mais dans le sol, par terre. Et je vois cette fameuse bague. Je vois ça. J'ai dit, mais c'est fou ça. J'ai dit, Seigneur, je te prie pour que tu me fasses un signe si un jour je vais me marier. Et je vois cette bague. Vous savez ce qui m'a marqué en fait sur cette bague également? C'est pas l'or, c'est pas l'argent, mais c'est la couleur de la pierre. Vous savez pourquoi? Le vert est ma couleur préférée. J'aimais bien le Power Rangers vert. Les sabres laser verts, j'aime bien aussi. Mais le vert a toujours été ma couleur préférée. Et je me suis dit, waouh, Seigneur, tu es quand même précis dans tes clins d'œil. Hein. Tu es quand même précis, Seigneur. J'ai pris cette bague, je l'ai mis de côté, j'ai dit, ben, Seigneur, je le donnerai à la femme que j'aurai choisie et qui soit mon épouse. Et quelques années plus tard, je rencontre Caro. Et je n'ai pas entendu. Dommage. Heureusement que c'était elle. Je vous rassure, c'est la seule femme que j'ai rencontrée. Donc, il n'y a pas eu de vice. Tiens, je te le donne, on a cassé, elle me le rend. Non, je ne suis pas comme ça. Et c'est là où j'ai vu vraiment une grâce. Parce que donc là, avec Caro, on va fêter 14 ans de mariage au mois de mai. Donc, merci Seigneur. Mais ce qui m'a vraiment impressionné, c'est que quand je lui ai donné, que dans mon cœur, j'étais convaincu que c'était avec elle que je voulais faire aussi ma vie, la bague lui allait de manière très précise. Très, très précise. Et on s'en est rendu compte quelques années après, parce que quand on avait fait le choix de vraiment se fiancer et ensuite se marier, à chaque fois qu'on allait dans les bijoutiers pour faire des tests, les bagues étaient toujours pas du tout à sa taille. Soit c'était trop grand, soit c'était trop petit, mais on ne trouvait jamais le juste milieu. Et c'est là où j'ai dit, ouais, Seigneur, en fait, tu connaissais toutes choses et tu avais tout prévu. Bon, attention, je ne suis pas en train de dire si c'était pas rentré, c'est pas elle, hein, on pourrait dire ça. Mais c'est pour dire à quel point le Seigneur est précis. Et s'il a fait ça pour Paul, il peut faire la même chose pour nous, pour nos vies, pour nos besoins, pour nos temps d'ombre. Et ce matin, je veux être clair, je ne parle pas de ministère. Mais je parle vraiment de notre foi. Où en est notre foi? Est-ce qu'on est dans l'ombre? Est-ce qu'on est dans la lumière? Est-ce qu'on est entre les deux? Mais notre foi. Et il y a une chose, c'est peut-être dur ce que je vais dire, mais je pense que on ne peut pas être pleinement dans la lumière tant que sur certaines zones de nos cœurs, on n'ait pas été non plus parfois isolé, ou parfois dans l'ombre, ou parfois dans la souffrance. On en parlait un petit peu tout à l'heure d'ailleurs ce matin, Simon. Et je pense que c'est des choses qui sont pour nous formateurs. Et il est bon d'avoir ce temps de recul parfois. Et comme j'ai déjà dit, un message, pas des temps de recul. Là, Paul, il y a fait 3-6 ans, c'était quelque chose vraiment de particulier. Mais nous, dans la communauté, parfois, un temps de recul peut être bon, sage, le dire aux responsables également, pour qu'ils puissent prier pour nous, mais ne pas être trop long. Mais ce temps, on va se mettre de côté en disant, voilà, là, peut-être là, j'ai fauté, là, j'ai fait des erreurs, mais Dieu est bon. et il est précis. Et on voit un petit peu Paul, un petit peu lui, il a fait ça en fait. Son ministère, c'était voyage, prison, voyage, prison, voyage, prison. Et on pourrait dire lumière, ombre, lumière, ombre, lumière, ombre. Ça, c'était au moment où il était vraiment dans son avancée. Mais le plus important, c'était la foi de Paul. Et il faut qu'on apporte la lumière dans nos cœurs. Peu importe le ministère, peu importe l'appel, il faut qu'on apporte la lumière dans nos cœurs. Ça, c'est le plus important. Et la lumière, c'est quand on sera près de Jésus. Et il y a un point qui est important également, c'est que tout n'est pas toujours beau, tout n'est pas toujours rose, et c'est une réalité. Je pense qu'il faut aussi en parler parfois. Et on va prendre ce passage ici qui nous montre comment Paul a souffert. Mais j'aimerais également dire une chose, c'est que je pense qu'on n'est pas tous amenés à être comme Paul. On n'est pas tous amenés à souffrir forcément de manière physique. Parce que dans ce cas-là, si on était tous amenés à cela, on pourrait dire que nos frères et sœurs qui sont morts peut-être dans leur repos, tout simplement en paix, ils n'étaient peut-être pas dans la volonté du Seigneur. Et là, ça serait une hérésie. Mais je pense que peut-être certains d'entre nous vont vivre des tribulations, d'autres peut-être pas, mais le plus important, c'est notre cœur, notre âme, notre foi, où se situe. Et ça, c'est le plus important. Mais il est bon de prendre conscience à quel point un homme qui persécutait a vécu des choses peut-être dramatiques, mais je pense que c'est, je ne vais pas dire la justice de Dieu, mais je pense que Paul avait vraiment besoin de ça pour que sa foi reste affermie peut-être, qu'il vive ce que lui, il a commis aux autres. Et voici ce qu'il est dit. Ils sont serviteurs de Christ, je parle comme un fou, je le suis plus encore, j'ai bien plus connu les travaux pénibles, infiniment plus les coups, bien plus encore les emprisonnements, et j'ai souvent été en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des juifs, les 40 coups moins un, 3 fois j'ai été fouetté, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans la mer, fréquemment en voyage j'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes et en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les prétendus frères, j'ai connu le travail et la peine, j'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil et à la faim et à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement, et sans parler du reste, je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises, donc même les églises, ça le persécutait, qui est faible sans que je sois faible, qui vient à tomber sans que je brûle. Quand on lit ça, qui a envie d'être comme Paul? C'est vrai. Non, mais je pense que certaines personnes ont besoin de vivre ça. Après, comme je disais, on n'est pas forcément tous. Mais je pense que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, qui n'a jamais vécu un naufrage spirituel? Moi, j'ai déjà vécu des naufrages spirituels. Des tribulations dans la foi. Et dans ces temps-là, on a vraiment besoin d'être proche et attaché auprès du cœur de Dieu. Dans certains points, on peut s'y retrouver, mais le plus important, c'est cette révélation. Parce que la révélation de Paul a été tellement forte qu'il a su survivre à tout ce qu'il a vécu. Et je pense que c'est un encouragement pour nous. Et ce que Paul a apporté, c'est vraiment une grâce pour nous aujourd'hui. Il s'est dit, je vois même la main de Dieu, quoi, parce que moi, personnellement, j'aurais pas du tout aimé vivre ça. Alors, vous allez me dire, Paul non plus, il n'a pas aimé. Mais je ne sais pas comment j'aurais tenu. Il faut être transparent. Comment j'aurais tenu face à tout cela? Mais Dieu savait que Paul pourrait le faire et on en bénéficie tous aujourd'hui. C'est là où on voit la grâce de Dieu. Et on voit que Paul s'est retrouvé plusieurs fois de manière physique après sa conversion dans l'ombre, mais il a toujours été pleinement dans la lumière. Et dans nos âmes et dans notre esprit, nous devons être comme ça. Mais il y a quelque chose qui est fort également, c'est qu'au travers de ces temps d'ombre, même quand il était en prison, Paul a pu écrire 4 lettres pendant sa captivité. Éphésiens, Philippiens, Colossiens et Philémon. Ces lettres sont généralement appelées les épîtres de la captivité. C'est pour dire à quel point, quoi qu'il nous arrive, même si le monde, même si la société, même si la situation nous pousse à rester dans l'ombre ou à nous dire « tais-toi, nous n'avons pas à nous taire ». nous avons à donner la lumière qu'il y a dans notre cœur. Nous avons à donner la lumière qu'il y a dans notre cœur. Une fois, on était avec un frère à l'église, donc mon ami Sam, chez qui je vais de temps en temps prêcher. Et en fait, on avait un frère dans l'église qui commençait à perdre un petit peu la vue. Et à un séminaire, il n'était pas là. On le voyait de temps en temps, une fois par semaine, un petit peu. Et il n'était pas venu au séminaire. Et les gens n'arrivaient pas à comprendre. Ils disaient, ouais, mais il y a quand même Dieu. Ouais, mais tu ne dois pas te laisser abattre. Mais il souffrait réellement. Et ça, alors sa foi n'était pas en péril, mais il vivait une vraie tribulation. Et on s'est regardé avec mon pote Sam au séminaire. On a dit, il est où? Et son épouse nous a dit, il est resté à la maison. Et on s'est regardé, on a dit, bien, on va le chercher. Et on a été le chercher, et il est revenu. Et de là, sa foi a grandi de nouveau. Et quelques années après, il est devenu responsable des jeunes. Et il dit, waouh, Seigneur, comme tu es grand, comme tu es bon. Je vais inviter l'équipe de louanges à s'approcher. C'est ce que je disais un petit peu à cet ami, justement, qu'on disait à cet ami quand on avait été le visiter. On disait, parce que forcément, quand tu perds réellement la vue, tu peux te poser la question, comment je vais servir le Seigneur? Si tu as des choses que le Seigneur a déposées. Et justement, ce qui m'est venu à cœur à ce moment-là, c'était lui dire, tu sais, j'ai Paul quand il était en captivité. Il y avait bien quelqu'un qui devait prendre ses lettres pour les donner. Donc même là, le Seigneur veille. Même là, le Seigneur place. Donc aujourd'hui, ce message, il est pour chacun de nous. Peu importe où nous nous trouvons, peu importe la situation, ce qui est important, c'est que nous avons un Dieu précis et qui nous mène de l'ombre à la lumière. Je vous invite à vous lever et j'aimerais également conclure des choses très importantes, c'est que quand Dieu nous prépare, il inclut ce que nous préférons omettre. Nous voulons oublier les périodes d'attente, nous voulons oublier les périodes d'isolement. Lorsque Dieu nous fait attendre caché à son ombre, il nous montre que nous ne sommes pas indispensables. Il est en train de dire, toi là, chut, et des fois ça fait du bien. Mais tu n'es pas indispensable. Il y a d'autres frères et sœurs également qui peuvent œuvrer. Nous ne sommes pas des stars. Et il faut comprendre cela. Cela permet de rester humble. Et là, c'est ce que Dieu a fait à Saul. Ce n'est pas toi la star, c'est moi la star. Quand Dieu nous met à l'écart, c'est également pour nous permettre d'être plus profond avec son cœur. On a beau essayer de maintenir le ministère ou autre, mais le fait de s'attendre à lui nous rendra plus profond et nous permettra de maintenir la passion pour lui. Quand le Seigneur, en fin de compte, choisit de se servir de nous, c'est au moment où nous nous y attendons le moins, voire seul quand il est en train de partir pour tuer. J'aimerais vraiment qu'on s'encourage ce matin à ne pas se taire, à écrire ce que nous devons écrire, à annoncer quand le Saint-Esprit nous demande de parler. Dans l'ombre, chercher sa face, un Ananias viendra te guérir. Dans l'ombre, cherche sa face, un Barnabas viendra te dire, viens travailler avec moi, Antioche. Dans l'ombre, que ce soit la prison ou la persécution, tiens ferme, car les murs de la prison vont trembler. Parce qu'à un moment donné, les murs de prison vont trembler. On n'a pas tout vu sur Paul, sinon on y serait où? Il enverra des anges pour te sauver, car il est en nous la lumière du monde. Ce matin, je t'invite à déposer devant Dieu toute cette partie qui est dure pour toi. Si à la fin vous avez besoin de prière, venez voir un responsable et on priera pour vous à la fin. Mais on va prendre ce temps de Sainte-Seine en étant vraiment dans cette dynamique. Je vais juste prier et après je vais laisser la parole à mon frère. Seigneur mon Dieu, tu vois, Seigneur, ce matin, Seigneur, nous avons fait un voyage, Seigneur. un petit voyage, Seigneur, avec Paul, Seigneur. Essaye d'avoir peut-être un autre regard, Seigneur. Et tu vois, Seigneur, la vie de chacun, Seigneur, aujourd'hui, des couples vivent des temps difficiles, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, certains sont attaqués dans la santé, Seigneur. Aujourd'hui, peut-être la pression de la société. Aujourd'hui, peut-être l'incompréhension. Et tout cela sont des périodes qui nous mènent peut-être dans l'ombre ou peut-être parfois dans des zones de prison, Seigneur. Mais ce matin, nous voulons, Seigneur, nous remettre devant toi et te demander de venir comme tu es venu, Seigneur, devant Paul, avec ta sainte lumière, avec ta grâce, Seigneur. Et nous voulons nous décharger devant toi, Seigneur. Ta parole qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, sois la lumière en nous. Remets le goût en nous, Seigneur. Et que nous puissions être des Ananias, des Barnabas, Seigneur. Des disciples qui vont défendre peut-être également son frère, Seigneur. Des gens qui allons encourager les autres, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, dans cette simplicité, mais dans ton esprit, répands ton esprit qui vient guérir et qui vient ramener à la lumière. Nous dénonçons les ténèbres. Nous dénonçons les paroles mauvaises. Nous dénonçons les paroles de malédiction. Nous les dévoilons au grand jour, Seigneur. Et nous annonçons que tu es la lumière du monde. À toi la gloire, Jésus. Amen.